Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Karim, on parle de psychiatrie. En fait, on fait un peu un genre de retour historique de la psychiatrie, en fait, de l'ancien temps, si on peut dire, au moins de plusieurs siècles à aujourd'hui. Certains aspects reliés à un article de The Economist que Karim m'a envoyé. On va en parler. Écoute, c'est un sujet assez intéressant, autant qu'on... On n'est pas des Jordan Peterson, mais quand même, le côté psychiatrie, ça fait partie de la santé, qu'on le veuille ou pas. Hein? Fait que notre big brain a bien sûr beaucoup d'aspects reliés à ça, avec les cas de santé mentale qu'on parle de plus en plus, les crises d'identité, puis disons que les crises d'anxiété, whatever. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Fait qu'on en parle ce matin en toute liberté. Salut, Karim.
Salut, Joey.
Yes, fait que psychiatrie ce matin.
Ouais, exactement, c'est ça. Tu peux-tu montrer l'article de l'Economist juste aux auditeurs pour voir on se réfère à quoi? Là. C'est many mental health conditions have bodily triggers, OK? Ça m'a un peu inspiré. C'est un article qui est assez... c'est un article d'actualité là, qui est sorti il y a quelques jours dans la section « Science » de The Economist. Et pourquoi ça m'a inspiré? C'est parce que c'est quand même d'actualité là, à la grandeur de la planète. Il y a une crise en santé mentale. Les ressources ont de la difficulté à fournir. Il faut bien comprendre qu'à l'époque... C'est pas qu'il y avait nécessairement moins de cas de santé mentale. Hein. Ça, c'est quand même important de le mentionner. C'est juste qu'on s'en foutait un peu, puis on les enfermait ou on s'en occupait juste pas, puis on les... Comment je peux dire?
Ouais, c'était la méthode tough. C'était plus genre, tu sais, à force de travailler, ça va passer. Tu sais, c'était vraiment plus deal oui. with it, puis...
Oui, et tout ce qui était psychose ou tout ce qui était considéré comme danger public, ben ça veut dire soit vous disparaissiez, soit on vous enfermait. Ça s'arrête là.
Puis encore plus longtemps, on considérait les crises d'épilepsie comme étant des exorcismes et des possessions démoniaques, mais ça, on est rendu pas mal plus loin.
Les crises d'épilepsie, l'épilepsie qui est un désordre neurologique, les conditions de santé mentale comme la psychose, par exemple, étaient également considérées comme des possessions démoniaques. Là. Ça, faut le mentionner. L'histoire, puis c'est pour ça qu'on va parler un peu de l'histoire de la psychiatrie moderne, puis on va revenir à cet article-là qui parle de nouvelles avancées biologiques dans le milieu dans le domaine de la psychiatrie, puis c'est ça qui est intéressant, parce que plus tu rends le domaine biologiquement accessible, plus il se « scientifise », entre guillemets, puis c'est ça qu'on veut, parce qu'à partir du moment, c'est sûr que faut que tu aies des diagnostics précis et faut que tu aies des traitements précis parce que sinon, ben on retourne à l'époque des douches froides puis du gros n'importe quoi qui existait il y a plusieurs
siècles. Les électrochocs, puis...
C'est ça, les électrochocs étaient donnés un peu pour n'importe quoi à l'époque. Aujourd'hui, il existe encore des électrochocs qui peuvent être donnés. Cependant, c'est fait sous anesthésie et c'est dans des cas de dépression majeure, réfractaire, avec un consentement. Okay. Et c'est fait sous anesthésie et souvent, ça peut avoir des effets quand même assez intéressants dans un certain pourcentage de cas. Sauf que c'est pas fait comme avant, c'est fait sous anesthésie. Il y a un anesthésiste qui vous endort, puis vous avez l'électrochoc une fois que vous êtes endormi. Donc ça existe, mais c'est réservé à des cas là, très, 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 très rares aujourd'hui, en raison des avancées biologiques, des avancées des molécules. Puis là, on va commencer, puis pourquoi je dis histoire de la psychiatrie moderne? Parce qu'écoute, on peut remonter à l'époque des Grecs, hein, si on veut. On peut même remonter à l'époque de l'Égypte pharaonique. Mais à un moment donné, on n'a pas 8 heures non plus. Là.
On peut remonter tellement loin que...
Non, c'est ça.
On va se rendre aux Sumériens avec le cunéiforme.
Exact. Donc là, on va débuter avec le mot psychiatrie. Il a été inventé dans quelle époque? C'est quoi la psychiatrie par rapport à la psychologie? Okay? Les deux traitent la santé mentale. Lorsque tu parlais de Jordan Peterson, là, ton idole,
avec ça.
Mais non, mais c'est
pas oh mon idole, calvaire!
Parce que à chaque chronique, tu parles toujours de.
Alors, ça fait quasiment que tu as eu 3 chroniques, j'ai même pas mentionné son nom.
Ah oui, souvent, ok, je pensais que t'en parlais.
Je l'ai juste nommé parce que, on va se le dire, c'est un des psychologues cliniciens les plus connus sur la planète. Là. C'est rendu quasiment un exemple qu'on soit d'accord ou pas avec ses propos. Là. Parce que tu sais.
Je l'aime beaucoup, Jordan Peterson, personnellement.
Ah, c'est ça, mais moi, ça dépend sur quoi. C'est juste que je le bloque pas. T'sais, si tu écouterais le podcast avec Ian Frank, tu te rendrais compte que même là, je le bloque pas tant que ça.
Ah non, ok. Moi je pensais que c'était tout systématique, mais c'est pas. Non, je fais des farces.
Non, je sais que tu
je fais des farces. Non, j'aime bien ses podcasts, particulièrement quelques-uns qu'il avait fait avec Joe Rogan, tout ça. J'aime bien ses podcasts. C'est un type qui déborde beaucoup de son sujet, il faut le dire. Et il y a quelque chose qui est très intéressant avec Jordan Peterson. Lorsqu'il parle de philo, lorsqu'il parle de au soccer, je trouve que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ses idées sur le soccer, mais il parle de tout, là, maintenant.
Ben, c'est ça. C'est, que c'est ça. Vraiment rendu que quand... Ce que j'aime beaucoup, puis je vais le répéter rapidement, là, ce que j'aime de Jordan Peterson, c'est vraiment c'est ça. C'est, il s'est adressé, puis la raison pour laquelle il est devenu aussi populaire, c'est qu'il a adressé beaucoup de ses livres et de son contenu pour les jeunes hommes aujourd'hui qui sont de plus en plus stigmatisés. Bon. Qu'on les traite de masculinité toxique. T'sais, des exemples d'hommes forts, il y en a de moins en moins dans notre société, ou du moins sont de moins en moins promus dans la société. Disons, on est plus en mode soumission que d'autres choses. Puis mon but, c'est pas de vouloir dire qu'il y a un complot ou whatever, c'est juste en général. Et lui, il ramène une certaine philosophie, j'allais dire d'antan, mais tu sais, que tiens-toi debout, fais ta chambre, aie confiance en toi, whatever. Puis autant qu'il y a eu un côté très, très intéressant à analyser certaines politique ou certaines décisions politiques d'un point de vue psychologique, d'un point de vue humain qui est très bon. Sauf que quand il parle de politique pure, ou encore plus quand il commence à parler de religion puis d'interprétation de la Bible ou whatever, on va dire que Richard Dawkins, c'est de la bullshit à côté. Là, parce que je dis pas qu'il croit pas ou je dis pas qu'il est un mensonge ou qu'il fait juste ça pour faire des clics. C'est simplement que n'importe quel... On prend la Bible parce que c'est un exemple très... très connu en termes de littérature internationale puis en termes d'œuvres écrites, mais on prendrait n'importe quel livre ou n'importe quelle légende urbaine ou whatever, l'Édipe de l'Olympe ou la mythologie scandinave, puis on pourrait faire 36 millions de liens avec n'importe quoi. Ah, là, il parle d'un serpent, ça veut dire qu'il parlait de pureté, puis la pureté, c'est la valeur de l'homme, on peut revirer ça dans notre société d'aujourd'hui. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, les interprétations de symbolisme dans la Bible, comme dans n'importe quelle autre œuvre, tu peux faire des heures et des heures à t'en inventer. De
toi. Oh oui, c'est la même chose avec les grandes religions, mais tout ça pour c'est dire ça. Que Jordan Peterson, je le trouve très intéressant lorsqu'il parle, quand il parle de son vraiment son field académique, là, qui est la neuropsychologie, il est très fort, il est très bon. Puis je trouve que sur le plan de la neuropsychologie, c'est une encyclopédie. Moi, j'aime bien l'écouter sur ce sujet précis. Maintenant, juste pour les auditeurs, faire la différence, c'est quoi le domaine, la différence entre la psychologie et la psychiatrie? C'est que la psychologie, c'est... les deux font partie du spectre de la santé mentale. La psychologie traite principalement utilise principalement des thérapies de la parole ou des thérapies comportementales, c'est-à-dire en guidant les gens vers un changement du comportement qui est non pharmacologique. La psychiatrie est une spécialité de la médecine qui s'intéresse à la santé mentale et qui utilise un substrat pharmacologique pour traiter la maladie mentale. Donc, les deux sont tout à fait complémentaires. Les deux se recoupent sur le plan de la capacité à entrer dans le psychisme de quelqu'un et de poser un diagnostic. Cependant, le traitement, il est différent. Puis, de plus en plus, on le voit complémentaire. Les études nous démontrent que les approches dualistiques, c'est-à-dire une approche de la thérapie de la parole avec une approche pharmacologique, nous permettent d'avoir de meilleurs résultats dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'entités de pathologie mentale, qu'une approche là, unidirectionnelle, que ce soit uniquement pharmacologique ou uniquement psychologique. Mais il y a des nuances dans tout ça. Maintenant...
Pour mettre ça au clair pour les auditeurs, Peterson, on parle vraiment, c'est ça, là, classique psychologie avec le Rakami, parlez-moi de votre vie, puis etc. Puis on, dans la psychiatrie, mais pour ceux qui fassent la reconnaissance, ben, pas, le Doc Mayhew, c'est un psychiatre.
Oui, tout à fait. Personnage, si on regarde, là, personnage typique qui est bien connu de la psychiatrie au Québec, le Doc Mayhew, c'est un psychiatre.
Ce n'est pas un psychologue,
c'est un psychiatre. Donc, il a une formation en médecine et une spécialité en psychiatrie. Donc, c'est...
pour ça qu'il parlait beaucoup de traitements sur certains, mettons, comportements plus dangereux ou quoi que ce soit, là.
Exact.
Pour ça, fait on est capable de démystifier les deux côtés.
Oui, bien, c'est sûr. Puis c'est important juste de le comprendre parce que c'est pas nécessairement évident de le comprendre. C'est monsieur, madame, tout le monde qui font un travail qui n'est pas en santé mentale, bon, ils n'iront pas lire là-dessus nécessairement. Donc, c'est important de mettre les bases au départ. Et Le mot psychiatrie, ça a été découvert, ça a été inventé en quelle année, ce mot-là? On a parlé de psychiatrie. Avant, on ne parlait pas de psychiatrie, on parlait d'âme, on parlait de psychisme, on parlait de toutes sortes de choses. Ça a été le premier à avoir, là, selon les traités historiques, là, avoir inventé ce mot-là, avoir appelé ça psychiatrie. C'est en 1808. C'est Johann Christian Rahl. Bon, c'est qui ça? C'est un médecin allemand. Bon, encore les Allemands. Pourquoi à chaque fois qu'il y a de l'évolution, à quelque part, les Allemands sont tout le temps là-dedans? C'est tannant, là, mais ils sont toujours là. On n'a pas le choix de les mentionner.
La bière, y était là. L'industrie moderne, y était là. La psychologie, y était là.
Ils sont tous là, exactement. Donc, à chaque fois que... Quand tu regardes là, les derniers siècles, quand il y a de l'évolution, tu as à peu près tout le temps un Allemand là-dedans. Bon, c'est en 1808. Et qu'est-ce que ça veut dire, psychiatrie? Ça veut dire, et c'est érigé, c'est l'étymologie du mot, il est moitié grec et moitié latin. Ça veut dire, je vous épargne mon grec et mon latin, mais ce que ça veut dire médecine de l'âme. OK? Donc, à l'époque, parce qu'on parlait beaucoup de l'âme et on pensait à une certaine époque que la pensée n'était pas matière. La pensée, c'était pas matière, c'était comme l'âme. Okay. Après ça, on s'est rendu compte, ben ouais, mais c'est parce que quand le cerveau est lésé, les comportements changent graduellement avec les avancées technologiques, avec les avancées scientifiques et aussi avec l'expérimentation. Par exemple, à un moment donné, il y avait un individu qui s'était rentré une barre de fer c'est un gars qui faisait des trains. Okay. Il travaillait là, avec des trains. Puis à un moment donné, il était tombé du train, puis c'était rentré une barre de fer au niveau du cerveau. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une lésion dans une région qui était à la base du cerveau, pas loin de l'hippocampe. Et suite à ça, cet individu avait développé ce qu'on appelle une amnésie antérograde. Amnésie antérograde par rapport à une amnésie rétrograde, c'est quoi la différence? C'est le classique de l'Alzheimer, du début de l'Alzheimer, c'est-à-dire que tu te souviens de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans, mais ce qui s'est passé hier, tu t'en souviens pas. Donc, ça a été comme une découverte fortuite, donc on s'est rendu compte que finalement, c'est pas l'âme comme telle, c'est la pensée et les matières. Et graduellement, on a découvert qu'il y a des neurotransmetteurs qui contrôlent le comportement. Donc, et toutes ces découvertes-là se sont faites graduellement, puis on va continuer. Mais ça, c'est le terme psychiatrie, 1808, médecin allemand. Okay? Et on va regarder ici une des nations qui a été les plus importantes au sein de l'avancée des technologies et de l'avancée de la compréhension. Et également de l'aspect social au niveau de la maladie mentale, c'est les Français. Okay? Les Allemands y ont contribué beaucoup aussi, mais les Français. Lorsqu'on parle de l'impact de la France et des Français, c'est après, à partir de... qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient, la Révolution française, 1789 à 1799, sous Napoléon. Au sein du code... Pardon?
Après.
Oui, bien. Attends un petit peu. 1789 à 1799, tu as eu au sein du code de Napoléon, parce que la Révolution française, ben non, mais la Révolution française, elle est arrivée.
La manière que tu l'as formulé, c'est comme si tu disais que c'est Napoléon qui aurait fait la Révolution française. C'est pour ça que je voulais juste que.
Non, c'est que la Révolution française, elle a débuté et Napoléon a été couronné.
C'est ça.
Ben oui, c'est ça, exactement.
C'est juste une correction parce que la manière que tu l'as formulé, mais j'en prends pas tes...
OK, non, ben c'est bon.
Mon but, c'est pas de te faire un cours d'histoire puis de te sermonner, là, c'était pas...
non, mais c'est parce qu'il y a eu la Révolution française et Napoléon a été couronné suite à la Révolution française. Exactement, c'est ça. Et le code de Napoléon a été créé suite à la Révolution française.
Exactement.
On s'entend là-dessus. Yes. Donc, à partir de... Et qu'est-ce qui est... Il y a eu un gros changement au sein du code de Napoléon, puis ça, honnêtement, je l'ignorais. J'ai appris ça suite, quand j'ai vu il y a quelques jours cet article-là sortir, puis je l'ai lu, j'ai regardé un peu, puis il y a plusieurs aspects que je connaissais de l'histoire de la psychiatrie, mais je ne savais pas que c'est au sein du code de Napoléon qu'il y a eu un changement légal en France au sein de ce qu'il appelait les aliénés. Qu'est-ce qu'il appelait les aliénés? C'est les gens qui souffraient de pathologie mentale. Et dans le code de Napoléon, c'était mentionné, il y a eu, c'est afin de, il y a eu un changement qui a concrétisé le fait, l'irresponsabilité psychiatrique. Donc, autrement dit, avant, si tu commettais un crime, tu étais responsable de ton crime et on ne considérait pas l'aspect de la pathologie mentale. Mais le Code de Napoléon a reconnu qu'il y avait une entité, qu'une entité psychiatrique pouvait faire en sorte que quelqu'un ne soit pas considéré comme criminel. Okay?
En gros, l'aliénation mentale, c'est là que ça a commencé finalement. En gros, plaider ça en cours.
Aujourd'hui, on n'appelle plus ça l'aliénation mentale. Ici, si on regarde juste au Canada, qu'est-ce que le code criminel dit? C'est-à-dire, tu ne peux pas être non coupable. C'est-à-dire, tu es coupable, mais tu es non responsable.
C'est non criminellement responsable.
C'est non criminellement responsable, OK? Bon, il y a des nuances là, par rapport au code de Napoléon, puis il y a des pays qui ont... Mais ça a quand même été pionnier. C'est quelque chose qui a été pionnier pour reconnaître, de dire, OK, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la différence entre le mal et le bien, de façon grossière comme ça. Et ce qui était inscrit, et ça, c'est une loi qui était bâtie sous les travaux de Philippe Pinel. Elle s'est concrétisée finalement, OK? Il y a eu là, beaucoup de débats autour de cette loi-là, mais elle s'est concrétisée finalement en 1838 sous les travaux de Philippe Pinel. C'est qui Philippe Pinel? Il y a un institut psychiatrique qui s'appelle l'Institut Philippe Pinel.
C'est ça que j'allais dire, j'ai dit ça vient de là.
Ben, oui, exactement. Philippe Pinel, c'était un médecin et psychiatre français qui a travaillé beaucoup sur l'aspect de la non-responsabilité criminelle et comment quelqu'un peut... qu'est-ce qui fait en sorte, psychologiquement, psychiatriquement parlant, que tu es en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Et l'Institut Philippe Pinel, à Montréal, c'est l'Institut de crime. C'est l'Institut où est-ce que, lorsque tu es reconnu, lorsque tu es arrêté pour un crime et qu'on considère que tu as une pathologie psychiatrique, c'est là où tu es interné, c'est là où tu es évalué.
Guy Turcotte, je pense que c'est là qu'il est allé. Là.
Probablement qu'il a été évalué à cet endroit-là.
C'est ça, le cardiologue veut de la glace.
Ça, exactement.
Je ne me rappelle plus de l'histoire trop, là, à part les grandes lignes, évidemment.
Lui a été reconnu, oui, fort probablement qu'il avait été interné à cet endroit-là, parce que suite à son premier procès, il avait été reconnu non responsable criminellement, mais il y a eu un autre procès à cause justement de l'histoire là, du lave-glace ou du gaz. Là, il avait inhalé des substances. Et ce qui est prévu par la loi, c'est que si tu t'intoxiques, même si tu es en psychose parce que tu t'intoxiques, tu es quand même responsable criminellement.
C'est ça,
tu as
fait le choix de t'intoxiquer, donc ça ne t'enlève pas de la culpabilité, au contraire.
Exactement, et c'est ça qui a fait en sorte que la Cour d'appel du Québec a ordonné un nouveau procès en disant qu'il y avait eu une erreur au sein de la loi parce que Guy Turcotte avait été reconnu non criminellement responsable. Mais lorsqu'on regarde, il y avait eu une erreur au niveau de la loi parce que, oui, il était fort probablement en psychose lorsqu'il a commis les actes horribles qu'il a commis, mais il s'était intoxiqué avant. Donc, tu ne peux pas justifier avec l'intoxication, du moins en droit canadien, puis c'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné, n'importe qui va dire « j'ai pris telle substance, puis c'est à cause de ça, ça fonctionnerait pas ». Et au sein de cette loi-là, en 1838, en France, qu'est-ce qu'elle disait, puis je la cite là, c'est-à-dire « la société doit être protégée des aliénés », c'est pas moi qui dis aliénés, là, c'est cette loi, des aliénés, mais également, l'État a la responsabilité de veiller que leurs maux soient adoucis et leur guérison, si possible, obtenue. Donc, on est un peu là encore aujourd'hui. On est un petit peu là encore aujourd'hui. Ça a changé l'évolution du domaine médico-légal, disons, cette loi au sein du traité de Napoléon. Maintenant, oui.
Non, vas-y.
Puis après ça, l'évolution s'est surtout faite en Europe autour des 19e et 20e siècles. Tu as eu quand même une évolution qui était assez mais une évolution qui était très lente parce qu'on ne parlait pas, on n'avait pas encore de marqueurs biologiques. On était beaucoup, il n'y avait pas... Donc, la psychiatrie existait, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à faire dans le sens que...
On est encore beaucoup dans le religieux aussi, j'ai l'impression.
Oui, on est dans le religieux, puis il y a quand même eu, il y a eu des avancées au niveau de la thérapie, de la parole, au niveau de la psychologie, mais au niveau des médicaments, on n'avait pas de médicaments pour traiter les gens. Donc, quelqu'un qui était vraiment en psychose, t'as beau lui parler, t'as beau faire n'importe quelle thérapie de la parole qui existe, ça ne fonctionnera juste pas. Oublie ça, il est déconnecté de la réalité. Il pense qu'il se fait suivre par des gens qui ne le suivent pas en réalité. Il voit des entités qui n'existent pas, puis il est en train de parler avec toi, puis il te voit comme quelqu'un qui veut l'assassiner. Donc, à partir de ce moment-là, tu as un élément de paranoïa qui empêche le contact. Donc, le rôle du psychologue, le rôle du thérapeute, de la parole devient extrêmement difficile parce que l'individu est en mode paranoïa en avant de lui. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'était assez difficile. On a, à cette époque-là, il y avait quand même une compétition assez féroce entre l'Allemagne et la France pour certaines avancées, dont des avancées chirurgicales. On parlait beaucoup de thérapie chirurgicale au sein du cerveau, ce qu'on appelle là grossièrement des lobotomies. Okay? On s'était rendu compte que lorsqu'on fait des incisions dans le cerveau, on va faire en sorte, par exemple, là, il y a une petite connexion entre le lobe temporal et le lobe frontal que si, du cerveau. Si tu vas la couper, les gens deviennent apathiques, ils sont comme ça. OK? Ils sont plus dangereux, mais ils ont, je veux dire...
Ils sont là, mais ils sont plus là.
Ils sont beaucoup moins là, disons.
Donc, c'est le classique qu'on a vu très caricatural dans les films ou dans les séries, là, tu sais, un peu lobotomie, que tu sais, c'est comme un peu Frankenstein, un peu que c'est mort, là. Ouais. Mais ça montre un peu. Puis mon but, je ne veux pas faire qu'on passe parce qu'on a déjà parlé de théorie de genre, puis de transition, puis voilà. Mon but, c'est pas de faire un gros bridge vers ça aussi, mais. Puis sans vouloir faire de comparatif non plus, puisque c'est pas du tout la même chose, mais tu sais, on voit que. Toute nouvelle science ou tout nouveau département relié à ces choses-là ont vraiment commencé avec beaucoup d'essais-erreurs. Là. Fait que dites-vous que, puis ça continue encore aujourd'hui, là, on a encore bien des trucs, on n'a pas encore toutes les réponses, bien sûr qu'on s'est amélioré au fil des siècles, au fil du temps, mais il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, puis même si on a aujourd'hui peut-être plus de technologies et de médecine et de médicaments qu'on en avait à une certaine époque, ben ça ne veut pas nécessairement dire qu'on part une nouvelle science sur le coin de la table, puis tout d'un coup, on sait tout automatiquement. Là, il y a encore beaucoup de justement d'essais-erreurs, puis c'est vraiment, comme tu le dis souvent, Karim, les études cliniques sur le long terme qui font qu'on voit les réels impacts des actions qu'on fait, puis c'est après ça qu'on s'améliore, puis on se peaufine. Là.
Exact. C'est-à-dire, la première séquence, c'est vraiment la découverte fondamentale, OK? Tu découvres un gène qui est impliqué dans telle maladie. Ça, c'est vraiment la découverte fondamentale. Après, tu as des ingénieurs génétiques qui peuvent développer une molécule avec l'industrie pharmaceutique pour targeter ce gène ou pour targeter ce récepteur moléculaire. Et au début, tu as des modèles animaux. Après ça, tu as des études cliniques chez les humains. Et c'est ces études cliniques-là qui sont en mesure de comparer un groupe qui le reçoit, un groupe qui ne le reçoit pas, ou un groupe qui reçoit ce traitement-là ou un autre traitement standard. Et après des années, tu es en mesure de dire, OK, on a un avantage ou on n'a pas d'avantage. C'est un peu comme ça l'évolution, c'est les études. Et dans les études, tu as des études de phase 1, 2, 3, 4. Je pourrais à un moment donné faire une chronique là-dessus là, si les gens sont intéressés. Mais c'est un petit peu comme ça. Là. Donc, tu as une découverte scientifique très fondamentale au départ et afin de l'amener jusqu'à savoir si vraiment c'est un traitement qui risque et bénéfice en vaut la peine. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend quand même du temps. Certaines molécules, c'est beaucoup plus rapide que d'autres. T'en as, c'est tellement rapide, les effets sont tellement faramineux que tu es même obligé d'arrêter les études parce que le groupe qui reçoit le traitement est tellement avantagé par rapport au groupe qui ne le reçoit pas, qu'éthiquement parlant, là, il faut que tu arrêtes l'étude puis tu dis tu donnes le traitement parce que tu comprends? Donc, ça dépend là, d'une molécule à l'autre, mais oui, le point que tu avais amené était bon. Et qu'est-ce qu'on avait au cours du 19, particulièrement au 19e siècle et même début du 20e siècle? On avait des interventions chirurgicales qui étaient assez barbare. Je pense qu'on peut le dire. À l'époque, écoute, moi, je ne lance pas la pierre aux gens qui faisaient ça, dans le sens qu'il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de molécules comme on a aujourd'hui. Et c'est un peu l'histoire de la psychiatrie. On donnait des douches froides. Ouais, on donnait des douches froides comme pour secouer le monde, comme si le cerveau allait se réveiller là, avec des douches froides, ce qui faisait pas de sens. On s'entend.
Ouais, c'est pas comme le reste. C'est pas parce que tu prends une douche froide que le cerveau il rapetisse, puis quand tu prends une douche chaude, il grossit. C'est pas le même, ça marche.
Non,
mais il y avait quand même un voyais, côté, contrairement, c'est ça, contrairement à certaines autres pratiques, la psychologie, il y a comme... Sans vouloir dire qu'une partie de subjectif au travers, mais tu sais, c'est un peu ésotérique, sachant qu'on parle de l'émotionnel, on parle, oui, du comportement humain, autant qu'il y a une grosse base biologique derrière, mais comme tu l'as dit, on en savait beaucoup moins à l'époque, puis disons qu'il y a un peu, on est moins dans l'expérience scientifique, physique, que tu mets de la poudre à canon, puis ça explose dans ta face. Là, on est vraiment dans le comportement humain, puis on est vraiment plus dans l'émotionnel, puis dans, comme tu le dis, c'est beaucoup oui. plus flou comme science pour faire des avancées là-dedans.
Oui, et pour le mesurer biologiquement parlant, c'est plus difficile parce que ça te prend des instruments. La mesure du neurotransmetteur dans le cerveau, ça te prend des laboratoires, ça te prend des microscopes très puissants, ça te prend des outils, pharmacologiques. Qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, on savait que la pensée résidait dans le cerveau. Ça, déjà, à partir du... Oui, il y avait beaucoup de religieux autour quand même, mais déjà à partir du 19e siècle, du début du 19e siècle, on avait des travaux qui nous suggéraient que vraiment, c'était pas une question d'âme, là, c'était une question de la pensée matière, dans le sens que il y avait beaucoup de gens qui avaient... Les gens qui avaient des traumas crâniens... les gens qui avaient des lésions cérébrales, on se rendait compte que, en fonction de certains endroits du cerveau, il y avait des changements de comportement. Qui a mappé une grosse partie du cerveau dans les... je pense qu'on ne peut pas le considérer vraiment comme un Québécois. Je pense qu'il ne se considérait pas lui-même comme un Québécois. Mais c'est quel neurochirurgien, juste pour le fun comme ça, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a une rue à son nom, à Montréal, dans le ghetto McGill, qui a mappé une grosse partie du cerveau, dont l'audition, dont l'homunculus, là, qui permet de bouger, et également une partie de l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire. Là. Il l'a fait dans les laboratoires à McGill. C'est un neurochirurgien britannique. Son nom, c'est Wilder Penfield. Il y a la rue à Montréal, quand tu vas dans le ghetto McGill, il y a la rue Dr. Penfield, qui est juste là. Moi, c'est un coin que j'aime beaucoup, là, le ghetto McGill à Montréal. Très historique. Si tu veux regarder, si tu vas à l'Institut neurologique de Montréal, c'est très intéressant de regarder un peu. Puis aussi à la bibliothèque Osler de McGill, il y a des vieux livres de Penfield. Et il a mappé une très grosse partie. Ça s'est fait à Montréal. Ça s'est fait à Montréal, au Québec. Là, le
hey, ouais. Si tu m'aurais posé la question, j'aurais été complètement dans le champ. J'aurais répondu de Vinci. Pourquoi? Parce que, tu sais, autant que peut-être pas le cerveau, mais... Donc, à l'époque de la Renaissance, il a fait ça de manière un peu illégale, mais il a été beaucoup biologiste dans le sens où il ouvrait les corps, il voyait comment... avant, c'était l'Église interdisait les autopsies, fait que le monde savait qu'il pissait le sang puis qu'il mourait, mais personne n'a jamais osé comprendre comment le corps humain fonctionnait. Puis de Vinci a été comme un des premiers à vraiment comme faire des croquis, mapper un peu comment le corps humain était fait. Peut-être pas le cerveau, mais c'était le premier nom qui m'avait tombé. Mais c'est surprenant, sérieusement, que ça s'est fait ici.
Ça s'est fait ici, Québec. Mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai fait justement une chronique avec Yann à l'époque là-dessus sur les plus grandes avancées de la science. J'avais nommé De Vinci. Ça avait été le premier au début de la Renaissance. C'était quoi? 1400, dans, 1400, ouais, 1400 là, 1400 quelques, donc au 15e siècle, ça avait été le premier à regarder vraiment l'anatomie du corps humain de par ses propres yeux. Il y en avait d'autres qui disséquaient des cadavres, mais ils ne le voyaient pas de leurs propres yeux, ils le voyaient de par les yeux de Koch, qui écrivait l'anatomie. C'est quoi ces bâtons-là? Ça vient pas de chez nous.
Ça va non plus.
Ça vient vraiment pas de chez nous. C'est-tu le... Non,
je sais, vraiment... jeu, j'ai cliqué, ça n'a absolument rien. J'ai aucune idée du Texas.
Les ballons.
T'as dû accrocher un piton. Ben, regarde, on va y prendre les ballons.
Ben, mon ordinateur est à 2 pieds de moi, là, donc je vois. Moi, je pense que ça vient de chez vous, d'après moi. En tout cas, peu importe. Écoute, fait que là, oh oui, donc ton point sur De Vinci est excellent. Puis jamais il y a des gens que ça les intéresse, j'avais fait une chronique avec Yann là-dessus, mais oui, ton point historique est super intéressant. Mais dans les années 30 et 40, Wilder Penfield avait mappé le cerveau, puis ça s'est fait à Montréal, à McGill, oui. Et ça avait contribué quand même beaucoup aux avancées scientifiques. Donc, on est vraiment dans cette période-là, mais on n'a pas encore de médicaments en psychiatrie. Donc, on commence à comprendre le cerveau. Penfield à Montréal nous aide à le comprendre. Il y a des Français qui nous aident à le comprendre. Il y a des Allemands qui nous aident à le comprendre. Mais on n'a pas encore de fameux outils intéressants pour traiter les patients en psychiatrie. Ça demeure encore des contentions.
Juste savoir, Penfield, c'est en quelle année qu'il l'a fait, le Kérim, à peu près?
Dans les années 1930.
OK.
Oui, dans les années de mémoire, rapidement, comme ça, parce que j'avais pas fait une chronique sur Penfield, mais dans les années 1930, de mémoire. Okay. Oui, de mémoire, 30-40.
On parle d'après Freud, parce que Freud, c'était fin 1800. Tu sais, mettons, on parle...
Exactement, j'en arrive à Freud. Freud, on était au début du 20e siècle.
C'est ça.
Donc, Freud s'est chevauché avec Einstein. On s'entend. Einstein était vraiment le génie sur sa théorie de la relativité terrestre. Sa théorie de l'effet photoélectrique, ce pourquoi il a gagné un Nobel de physique. Et tu avais Freud qui était considéré comme le génie un peu de la nouvelle façon de considérer la psychologie. Lui, il a comme créé, il y en a d'autres qui en avaient déjà parlé puis c'est contesté, mais officiellement, il a comme créé ce qu'on appelle la psychanalyse.
Il considérait comme plusieurs comme étant le père de la psychologie, même s'il y en a eu d'autres avant. Là, c'est un peu comme quand on pense comme les membres fondateurs de cette science-là, beaucoup retournent à Freud, là, même si, comme tu le dis, il y en a eu d'autres avant lui qui ont un peu créé les premières pierres. Mais c'est un peu spécial à quel point un homme comme ça, parce que tu sais, pour ceux qui connaissent un peu son historique, Freud, dans la vraie vie, l'homme, Freud, c'est un méchant trou de cul. Je veux pas être méchant, là. Tu sais, supposément que c'est un homme assez cruel, assez by the book, puis même un peu fucké ses bords, là. Peut-être c'est un peu ça pourquoi aussi que ça l'a aidé dans son processus, mais en tout cas, c'était pas un ange, on va dire ça comme ça.
Ouais, comme beaucoup d'hommes qui ont fait avancer les choses d'une certaine façon, là, un certain narcissisme, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses assez laides qui se disent sur son sujet comme individu. Et également, parce que Freud était un neurologue de formation. Hein. N'était pas un psychiatre, c'était pas un psychologue, c'était un neurologue de formation. C'est lui qui a découvert la cocaïne, il faut le dire. Okay. Oh. Ouais, parce qu'il essayait d'anesthésier des patients pour qu'il y ait moins de douleur. Et il a découvert, il s'est rendu compte que la cocaïne est un anesthésique assez intéressant parce que elle te permet d'inhiber les récepteurs de la douleur. Donc, ça veut dire si tu te mettais de la cocaïne, par exemple, à quelque part, t'as un effet sur la peau, là, par exemple, tu te mettais de la cocaïne, ben, on pourrait te couper la peau parce que tes récepteurs de douleur seraient bloqués. La cocaïne vient bloquer tes récepteurs de douleur et on peut t'opérer. Maintenant, on n'utilise pas de la cocaïne, on utilise de la lidocaïne, on utilise de la xylocaïne, mais la cocaïne a été un précurseur. Donc, Freud, c'est une avancée incontestable qu'il a faite, c'était cette découverte d'anesthésique par la cocaïne qui a mené à d'autres découvertes. Ça, les gens n'associent pas Freud à ça. Maintenant, toute sa théorie de la psychanalyse, c'est vrai qu'il a révolutionné la psychologie. Un psychologue serait meilleur que moi pour t'en parler. Est-ce que c'est valide scientifiquement ou pas, son approche psychanalytique? Je sais qu'il y a un philosophe français du nom de Michel Onfray qui est extrêmement critique, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Le crépuscule d'une idole ». Il paraphrasait Nietzsche un peu parce qu'il y a un célèbre livre de Nietzsche qui s'appelle « Le crépuscule des idoles » où est-ce qu'il détruit à peu près tout le monde là-dedans. Il détruit Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, plusieurs Grecs.
Dans celui-là qui dit que Dieu est mort, vous avez de même? Là,
ça c'est avant. Là. Non, Nietzsche dit que Dieu était mort bien avant ça.
Okay.
Mais on ferait un peu, il détruit Freud en disant qu'il n'y a rien de scientifique dans son approche de la psychanalyse. Honnêtement, je pense qu'on ferait trop sévère dans sa critique de Freud. C'est vrai que ce n'est pas scientifique dans le sens que tu ne peux pas le mesurer biologiquement, mais de dire que l'ensemble de la psychanalyse, c'est de la foutaise, je ne pense pas. Je trouve
non, je pense qu'il y a quand même des avancements. C'est ce que c'est ça. Donc, je pense qu'on peut, on peut blâmer l'ère du temps ou l'homme en tant que tel, mais semble-t-il que vraiment... Tu sais, un exemple que je donne souvent, j'ai fouillé un peu, en fait, c'est la série The Crown qui m'a fait découvrir un peu ça, c'est que la princesse Alice, qui était la mère du prince Philippe, en fait, là, elle avait été, parce que c'est une femme qui est née, c'est ça, à fin des années 1800, elle avait eu des gros problèmes de mentaux, ou du moins, qui semblaient sévères, mais à l'époque, c'est pas trop comment la traiter, puis elle avait été traitée par Sigmund Freud, puis semble-t-il que, tu sais, ça allait être... Elle avait été électrochoc à côté, puis c'était quasiment plus de la torture que du traitement, là, puis elle a eu beaucoup de séquelles reliées à ça. Ouais. Puis donc, ils ont mis ça de l'avant beaucoup. Autant qu'il peut y avoir une partie de vrai, une partie de faux, mais je sais qu'il y a une partie historique qui est vraie là-dedans. Fait que, disons qu'il y a un peu... C'est ça. Donc, il y a comme une aura un peu de, je dirais pas broche à foin, mais beaucoup d'essais-erreurs. Vous allez me dire, dans toutes les nouvelles sciences, c'est un peu ça. Malheureusement, vous avez peut-être raison. Mais disons que c'est ça, c'était pas,
je pense
pas
tout qu'il
fait
a,
des règles de l'art.
Je pense qu'il a contribué de façon significative à l'avancement de la psychologie.
Mmh, oui.
Je pense que oui, mais c'est sûr que c'est pas lui qui a amené des substrats biologiques aux troubles de comportement. Là. Ça, c'est, on n'est pas là du tout, donc Onfray a raison là-dessus.
Oui.
Mais quand tu lis le livre d'Onfray, tu as l'impression que si Freud n'avait pas existé, ce serait mieux comme ça. Je pense qu'il était trop sévère, là, honnêtement, dans sa critique. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés sur le sujet, Le crépuscule d'une idole, la critique de Michel Onfray contre les travaux de Sigmund Freud. Bon. Maintenant, on arrive à quelque chose qui est assez intéressant. Juste une dernière petite parenthèse historique. Quand j'avais fait un cours de philo, je me rappelle, c'était deuxième année cégep. C'était un cours qui s'appelait, je pense que ça parlait l'être humain, une affaire de même. Et
j'ai eu un aussi. Moi, c'était initiation à la psychologie. Fait que,
OK.
Je pense que c'est le même cours qu'on a eu là, à des années différentes.
Ça ressemble peut-être. Là, puis le prof nous avait posé cette question-là. Pour moi, un peu une révélation qui m'intéressait qui a fait en sorte que je me suis intéressé plus au comportement humain après. Puis je me rappelle, il y avait un cours sur Freud. Ben, il y avait une section du cours qui était sur Freud et il nous avait posé la question, c'est qui le premier à avoir explicité le terme inconscient? Puis là, il y a plusieurs étudiants, parce qu'on étudiait Freud, ils ont tout écrit Freud là, à l'examen, mais ils nous avaient laissé chercher un peu. Moi, je dis, ben non, c'est sûr que c'est pas Freud. Et l'individu en question, c'est un mathématicien allemand du nom de Leibniz.
Un autre Allemand.
Mais pourquoi ils sont tout le temps là? L-E-I-B-N-I-Z. Leibniz, à l'époque, il faisait un peu tout. C'était un mathématicien allemand du 17e siècle. Donc ça fait
longtemps. À l'époque, il y avait comme trois titres. Là. C'était comme genre médecin, philosophe et entrepreneur.
C'est ça. Le type, c'était un mathématicien. Puis c'est lui qui a commencé à penser. Il a dit, OK, peut-être qu'on est gouverné en partie par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça, okay, c'est le premier. Tu comprends? Donc, c'est le premier, là, historiquement, à l'avoir explicité. Bon, maintenant, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Arrivée de la pharmacothérapie. Qui a été le premier à nous amener le premier médicament psychiatrique? C'est-à-dire le médicament qui fait en sorte que maintenant, on est soulagé. OK, on arrête la barbarie. On commence quelque chose qui est, on peut vraiment donner, au lieu de contentionner les patients, au lieu de faire des histoires de lobotomie,
on a
le premier neuroleptique.
Je guesserais, je te dirais, aux alentours de la Première Guerre mondiale, potentiellement après, parce qu'avec le shell
shock. Très bien, excellent.
T'arrêtes dessus, je suis pas pire.
T'es vraiment là-dedans, 1952.
Finalement, c'est deuxième guerre. Je me suis trompé.
J'avais compris que tu avais dit deuxième guerre.
Non, okay, c'est ça. C'est la première que je pensais parce que c'est vraiment là que la médecine moderne a montré qu'on était capable de faire survivre des êtres humains, même si on a vu pour ceux qui ont pas le goût de souper au déjeuner matin, là, des images d'hommes qui manquent des bouts de mâchoire après la Première Guerre mondiale, puis on a quand même réussi à les faire vivre avec la médecine moderne. Puis c'est là qu'il y a eu les premiers. Choc post-traumatique qu'on appelait shell shock avant.
Exact.
Il y a eu battle fatigue durant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça fait que c'était après deuxième.
Mais je veux dire, OK, parce que je pensais que tu avais dit la deuxième, mais tu as quand même raison partiellement, c'est-à-dire qu'à partir du choc de la Première Guerre mondiale, OK, tu as quand même eu, tout ce que tu viens de décrire là est vrai, et tu as eu des études qui ont commencé à être beaucoup plus intenses sur le sujet. Mais avant que tu sortes avec une molécule...
Ben c'est ça, c'est long. Hein.
Ça ne prend pas 3 ans, on s'entend. Non, ben ça. Aujourd'hui, ça peut prendre 3 ans, mais à cette époque-là...
Pas à cette époque-là.
Non, c'est ça. Donc, tu as eu, entre... Après ça, tu as eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, oui, on était vraiment... Puis, tu avais Freud à l'époque de la Deuxième Guerre, de la Première Guerre mondiale. Tu avais des chercheurs allemands, des chercheurs français, tu avais des chercheurs britanniques. La planète commençait vraiment à s'intéresser de façon importante au substrat biologique de la santé mentale. Mais celui qui a été le premier à amener une molécule qu'on appelle neuroleptique, donc qui a un effet psychotrope sur le cerveau pour moduler le comportement de façon synthétique, parlez-moi pas d'opium, là, on sait là, qu'il y avait des choses qui étaient faites avant, mais vraiment une molécule synthétique, c'est Henri Laborie en 1952. Henri Laborie qui est un neurochirurgien français de formation, mais également chirurgien militaire. Et lui cherchait depuis des années, depuis une couple de décennies, une molécule pour faire en sorte de dissocier le cerveau de l'esprit pour les soldats qui sont atteints de traumas à la guerre. Il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, en réalité. On l'a fait après avec la kétamine, qui est une molécule qui est plus efficace pour dissocier le cerveau, l'esprit du corps. Mais sa molécule, la chlorpromazine ou l'argactyl, qu'il a découvert, lui, s'était rendu compte que, OK, quand il y a des gens justement qui ont des chocs post-traumatiques ou quand il y a des gens qui sont en état de psychose, qui sont déconnectés avec la réalité, ça calme vraiment beaucoup leurs hallucinations. Puis c'est ça, c'est intéressant. Et suite à ça, il y a des travaux qui ont continué. En 1957, on a découvert l'aldol. Maintenant, le largactyl, là, la chlorpromazine, on l'utilise plus en psychiatrie, on l'utilise pour le hockey.
OK.
Oui, c'est très efficace pour le hockey aussi, parce que la dopamine, qui est le neurotransmetteur qui est impliqué dans la psychose, est impliqué aussi dans le hockey chronique. Mais tout ça pour dire, et Laborie, ça c'est très intéressant, ceux qui sont intéressés par le sujet de la santé mentale et de l'histoire de tout ça, je paraphraserai un chroniqueur et un influenceur très controversé, c'est une disgrâce pour l'humanité de ne pas connaître Laborie. Vous devez connaître Laborie, si vous intéressez.
Une disgrâce à la dignité humaine.
Une disgrâce à la dignité humaine. Si vous vous intéressez à la santé mentale, il faut lire sur Laborie. Laborie, en plus, il n'avait pas juste parlé. Il a fait un de ses très bons livres, ça s'appelle « L'éloge de la fuite ». Il avait fait des expériences aussi sur le plan de la psychologie. Il avait enfermé des souris ou des rats et il avait caractérisé leur comportement. Et disons que tu avais 2 souris qui étaient ensemble, OK? Et tu leur infligeais, là, vous allez dire, c'est barbare, j'aime pas ça, moi, je ferais pas ça à des animaux, mais bon, écoute, là, ça a fait avancer.
Soit ça ou des humains, on va comprendre les souris. Hein?
C'est un peu ça, je sais qu'il y a toujours ces critiques-là. Moi, je vous raconte l'histoire, là, bon, c'est ça. Et là, c'est pas que j'ai un plaisir à parler de ça, puis je comprends, je suis très sensible aux animaux, j'en ai moi-même, mais on parle de l'histoire ici, puis des avancées scientifiques. Donc, lorsque tu donnais, par exemple, une souris toute seule, tu lui donnais des petits chocs électriques et elle n'avait pas la possibilité de s'enfuir. Après ça, tu prenais des paramètres biologiques, peut-être tension artérielle, niveau de cortisol, toutes sortes de paramètres biologiques et tu te rendrais compte que sa santé physique se détériorait énormément si elle était enfermée. OK? Si tu avais 2 souris ensemble et tu leur donnais des chocs électriques et il y avait la possibilité de se battre entre elles, leur niveau de... lorsque tu reprenais les mêmes facteurs biologiques, ils étaient moins détériorés. Okay?
OK?
Et le mieux dans tout ça, c'est si tu leur donnes un choc électrique, mais il y a la possibilité de fuir le choc. Même s'il revient au choc, et même s'il reçoit le même choc constamment, mais il y a la possibilité de fuir ailleurs avant de revenir, c'est là que ces facteurs biologiques sont les moins détériorés.
Donc, avec un côté psychologique d'un peu pouvoir, tu sais, un peu comme la possibilité de l'endurer, parce qu'il y a comme un espoir d'échappatoire.
Là. Exact. Et c'est ça que son livre s'intitule « L'éloge de la fuite ». Donc, si tu as un stress, il faut que tu aies une possibilité de le fuir d'une certaine façon. Et vous êtes beaucoup mieux de fuir le stress. Par contre, vous pouvez décider de le c'est mieux de le combattre que de ne rien faire du tout. Parce que si vous ne faites rien du tout, c'est ce que lui appelle sa théorie de l'inhibition de l'action. Tu es en action qui est inhibée, c'est là que tu vas te détériorer complètement.
Ben c'est ça, c'est ce qu'on appelle en jargon québécois garder tout ça en dedans. Là. En gros, c'est un peu le classique qu'on dit tout le temps, c'est que tu fais rien que te renfermer sur toi-même ou tu parles à personne ou il n'y a pas de communication, ben, ce que tu gardes en dedans, ben, ça t'empoisonne d'une manière indirecte. Là. Pas biologiquement, mais ça te défait de l'intérieur psychologiquement. Fait que c'est pour ça
et biologiquement. Et ce que la Bourdieu avait démontré, c'est biologiquement, tu as des facteurs biologiques, physiques qui se détériorent. Donc, l'esprit est très important. L'esprit, la santé mentale est très importante pour la santé physique également. Et la Bourdieu avait travaillé là-dessus. Ceux qui sont intéressés, le livre s'intitule « L'éloge de la fuite ». Puis quand on dit « combattre », à l'échelle humaine, on ne dit pas d'aller sacrer des volets au monde. C'est pas ça le point. Je sais que les bolcheviks vont essayer de nous faire dire toutes sortes d'affaires. Non, non. La sublimation, faire du jogging, faire de l'art, faire de la peinture, faire toutes sortes de choses. Là. Faire des podcasts, je veux dire ça.
De la boxe.
Faire de la boxe de façon légale avec un coach qui supervise. C'est exactement ce qu'on voulait dire.
C'est se défouler sur quelque chose, finalement. C'est peut-être pas nécessairement... Quand je dis défouler, c'est pas nécessairement toujours frapper sur quelque chose, mais c'est vraiment.
En gros,
c'est ça. C'est que c'est comme tu dis, c'est fuir les. C'est, au lieu de focusser uniquement sur. Tu sais, l'expression qui dit si tu cherches la lumière, tu risques souvent de la trouver, mais si tu cherches le noir, c'est juste ça que tu vas voir. Tu sais, c'est fait faut que tu trouves des activités, il faut que tu trouves justement des moyens de pas y penser ou du moins de d'échapper. Ben, c'est là qu'un peu. Ça, c'est mon côté geek qui ressort un peu, mais tout ce qui est justement jeux vidéo, ou simplement lire un livre, ou parler ou rentrer dans un univers qui n'est pas le nôtre ou qui est fiction, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que mes youtubeurs anglais que j'aime beaucoup écouter appellent le escapism. T'sais, c'est le principe de s'échapper du monde réel puis de rentrer dans un univers fictif, soit en jouant à un jeu vidéo ou en justement lisant une histoire ou en écoutant un film, par exemple. T'sais, vraiment, puis c'est important, puis c'est d'ailleurs une de mes critiques principales. De la, je pourrais appeler ça la politique du cinéma moderne, parce que tellement de concepts politiques ou de concepts reliés à notre société d'aujourd'hui dans des histoires basées sur des univers fictifs qui se passent des fois même pas sur Terre, mais qu'ils ont des concepts quand même de notre société à nous autres, c'est que la capacité de escapism est de beaucoup plus difficile, parce qu'à chaque fois que tu dis « Hey, wow, quel univers! » Puis là, t'as la fille qui commence à te parler à quel point les gens sont racistes, puis décide de chercher... T'es comme, ah, tabarouette, là. C'est comme si ça, un peu comme si tu es en train de rêver, puis tant genre deux trucs ou deux, trois paroles qui te font réveiller toutes les trois secondes. T'es comme, tabarnage, j'essaie de dormir. C'est un peu ça, un peu, là. Fait que c'est assez spécial, les liens qu'on peut faire liés à cet univers-là.
Tout à fait. Et comment je peux dire, c'est ce qui est intéressant dans tout ça, dans le concept de, c'est vraiment le concept de sublimation, c'est de faire en sorte que, comment je peux dire, application, le point là, que je voulais amener, c'est l'application moderne de tout ça. Disons que tu veux combattre quelque chose et ça ne fait pas ton affaire. Tu considères que le gouvernement est tout croche. Ben, tu n'as pas besoin d'aller faire des manifestations illégales. Implique-toi dans des partis politiques. Essaie de changer les choses. Essaie de faire de l'entrisme dans des partis pour influencer. Essaie. Tu as toutes sortes de façons de faire les choses. Et ça, ça peut faire... Et là, ça devient un combat en soi, mais un combat légal. Donc,
c'est ça.
Et la Bourdieu décrit très bien l'ensemble de ces aspects-là. Donc, je vais plugger un peu son livre. Je n'ai pas de part dans la maison d'édition, là, en bas. Hein. Puis, c'est pas financé par les pétrolières albertaines.
Oui, ou le gouvernement français.
Non, il n'y a rien de tout ça. Maintenant, autre point que je voulais amener intéressant ici, quand on parle de l'histoire, c'est... la composante génétique dans la santé mentale. Qui sont les premiers à nous avoir fait des études pour nous montrer qu'il y avait un aspect génétique en santé mentale? Là, c'est pas les Allemands, c'est les Danois. Ouais.
Oh, on a notre ami Samuel Rasmussen qui va être content, là.
Il est-tu danois, lui?
Non, mais je pense que c'est sa famille qui l'a fait de... Pas si son grand-père ou son arrière-grand-père était danois. Ben, tu sais, Rasmussen, déjà en partant, tu sais, c'est pas...
Non, ça vient pas de Robert Wall, on le sait.
Non, c'est ça, mais tu sais, je le trouve bien drôle, Sam, là, il est bien sympathique, puis tout, mais c'est ça, il parle souvent, je dis souvent à Sam qu'il aurait le pouvoir de faire son claim pour devenir le prochain monarque du Danemark. Fait qu'il va être content de savoir que justement les Danois ont leur part dans cette...
Ils ont fait quelque chose de super intéressant, les Danois, puis après ça, les Suédois en ont fait aussi, puis là, il y en a eu les Britanniques, on continue là-dedans, mais dans les années 60, les Danois ont débuté ce qu'on appelle les études sur les jumeaux monozygotes et hétérozygotes. C'est quoi cette histoire, les jumeaux monozygotes et hétérozygotes?
C'est pas des noms de famille en passant. Hein.
Jumeaux hétéro, pour hétérogène, hétérozygote veut dire jumeaux différents. OK? Donc, ils ne partagent pas 100% du même bagage génétique.
C'est ça, en gros, des noms identiques, finalement.
Jumeaux non identiques, c'est comme des frères et sœurs. Donc, ils partent une certaine portion de leur bagage génétique, OK? Mais comme des frères et sœurs, il y a beaucoup de différences génétiques entre les deux. Jumeaux homozygotes, c'est des jumeaux identiques, ils ont 100% du même bagage génétique. Ne me dites pas que oui, il peut y avoir des crossovers dans la méiose qui font en sorte qu'il y a des gènes différents. Je sais, là, grossièrement, OK? C'est là, on n'est pas là pour faire un cours de biologie moléculaire. C'est parce que des fois, il y a des gens qui vont chercher une affaire, j'ai dit une affaire, puis là, ils ont dit, hey, oui, mais j'ai vu là, cette affaire. Je comprends, là, il y a des nuances. Là. Mais de façon générale, le background génétique n'est pas loin de 100% identique entre des jumeaux homozygotes, ce qui n'est pas du tout le cas entre des jumeaux hétérozygotes. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des grandes études longitudinales. Ils ont pris des patients, des gens, OK, et qui étaient séparés à la naissance et qui n'avaient pas de contact les uns avec les autres et qui étaient dans des familles complètement différentes, qui étaient soit des jumeaux hétérozygotes ou soit des jumeaux monozygotes. Premier groupe, groupe témoin, jumeaux homozygotes, groupe contrôle, jumeaux hétérozygotes. OK? Tu avais les deux. Et là, ils ont regardé un peu leur évolution. Et il y avait troubles de santé mentale, les paramètres qui étaient mesurés. Troubles de santé mentale, problèmes avec la justice, incarcération, violence conjugale, troubles d'abus de substances, etc. Ils se sont rendus compte, les Danois, que au sein des jumeaux homozygotes, au sein des jumeaux identiques qui ne se connaissaient pas du tout, qui avaient des éducations complètement différentes, leur parcours de vie était drôlement similaire sur le plan des troubles de santé mentale, troubles de criminalité, ce qui n'était pas le cas des jumeaux hétérozygotes. Et les pourcentages, je ne vous donne pas de pourcentage parce qu'il y a plusieurs études là-dessus, vous pouvez regarder, mais c'est dans le DSM, c'est bien écrit dans le DSM, les pourcentages sont faramineux, les différences. Là, c'est tellement significatif. Puis ça nous ramène au film Retour vers le futur qui me fait toujours rire. Ça, il montre un peu ça, c'est-à-dire tu as les tanines, eux autres, peu importe où tu vas, que tu sois dans le passé, dans le futur, ben, moi, c'est toujours des truands, les tanines. ça montre un peu ça. Tout ça pour dire, mais c'est des pourcentages, c'est-à-dire c'est de la probabilité. Puis on ne dit pas que c'est pas parce que ton père est un truand que tu vas nécessairement être un truand.
Non,
mais génétiquement, même si tu ne le connais pas, tu as plus de chances de souffrir, par exemple, d'un trouble de personnalité antisociale, d'avoir des problèmes avec la justice.
C'est ça, parce que c'est multifactoriel. Hein, quand tu dis qu'il y a une partie qui est la génétique, je pense qu'il y a une partie, bien sûr, l'influence de ton environnement, bien évidemment. Sûr. C'est sûr que si tu peux naître la personne la plus gentille qu'il n'y a pas, mais si t'es élevé dans un milieu très défavorisé, très négatif, très violent, bien évidemment, tu risques de sortir là, avoir des cicatrices, peut-être pas être aussi joyeux que tu l'étais.
Tout ça est vrai. L'environnement, et c'est pour ça que c'est des pourcentages. C'est-à-dire, tu vas avoir un groupe, par exemple, qui va être à... jumeaux selon certaines études, là, tu sais, mais jumeaux hétérozygotes, ça peut être 10% de concordance, puis l'autre, ça peut être 60% de concordance, là, tu sais, des choses comme ça, mais c'est pas 100%, on s'entend. Donc, c'est là qu'on voit que tu as vraiment l'aspect environnemental est très important, ce qu'on appelle le phénomène épigénétique. Épigénétique, ça veut dire que la génétique t'influence beaucoup, tu es un peu esclave de ta génétique, mais pas à 100%, et ton environnement peut faire en sorte que si tu as un bon environnement, bien, tu vas minimiser tes morbidités. Et si tu as un, un mauvais environnement, ben, tu peux avoir tout ce qu'il faut génétiquement dans ton background pour bien réussir, pour être heureux, et tu ne le seras pas quand même. Donc, tout naturellement. Mais c'est quand même intéressant, ces études danoises-là, qui a amené à de multiples autres études sur les jumeaux monozygotes, hétérozygotes par la suite. Et ça a fait avancer quand même la compréhension. Maintenant, on arrive justement dans ce que tu parlais. Puis je vais, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est en ligne, là, je vais essayer d'accélérer la cadence. C'est un sujet qui m'intéresse, fait que je parle peut-être un peu trop.
Ou c'est peut-être ma faute aussi, c'est vrai que je devrais me faire ma gueule.
Ah non, non, ben non, ben non, moi, écoute, moi quand on parle de ces genres de choses-là, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais le but, c'est parce que les auditeurs, je sais qu'ils n'ont pas une journée nécessairement à passer là-dessus. Fait que je vais essayer d'accélérer ici. Lorsqu'on parle de l'article de The Economist, fait que là, on a fait un peu l'histoire de la psychiatrie moderne. Puis, quand on met des articles ici à Joey et Karim, on trouve une excuse de parler de quelque chose plus en profondeur puis plus intemporel, disons. Mais dans l'article, ce qui amène d'intéressant, c'est que maintenant, il y a des avancées qui nous démontreraient, OK? Puis ça, c'est vrai, je l'avais déjà lu avant, mais là, c'est quand même des économistes qui le sortent avec des psychiatres britanniques, avec des chercheurs britanniques et des chercheurs aussi de l'Université Oxford qui nous disent que les maladies auto-immunitaires pourraient avoir un lien avec la maladie mentale. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi auto-immunitaire? Ça veut dire vos anticorps qui vous attaquent vous-même. Comme par exemple une polyarthrite rhumatoïde, faites de l'arthrite, vous avez mal aux articulations, vous avez des anticorps qui s'imaginent que vos articulations sont étrangères à vous, ils vous attaquent, vous faites de l'inflammation, ça fait mal, vos articulations enflent. Là, on se rend compte que dans certaines maladies auto-immunitaires, vous avez des anticorps qui s'imaginent que les récepteurs de votre cerveau sont étrangers à vous et ils les attaquent. Ça crée de l'œdème, ça crée de la destruction neuronale, particulièrement dans certaines maladies métaboliques au niveau de l'hippocampe qui est responsable de la mémoire et qui a aussi des connexions avec votre système limbique qui est responsable de votre comportement. Donc ça, c'est pourquoi je trouve ça encourageant, c'est qu'on a de plus en plus des substrats biologiques. C'est ce que cet article nous démontre là, étude britannique, également étude de l'Université Oxford qui dit qu'il y aurait entre 5 et 10% des états psychotiques qui pourraient être en lien avec des maladies auto-immunitaires. Là, vous allez dire, c'est bon, 10 % c'est 1 sur 10, ça ne règle pas tout le problème. Je comprends que ça ne règle pas tout le problème, mais ce sont des avancées scientifiques qui nous démontrent que si on sait que c'est auto-immunitaire, bien, on va traiter avec des stéroïdes, par exemple de la cortisone ou avec des médicaments immunosuppresseurs pour améliorer l'état de ces patients-là. Si c'est juste 10 % c'est juste 10 % mais c'est déjà ça. Donc, ce que j'ai bien aimé dans cet article-là, et il parlait également d'infections à streptocoque qui pouvaient causer des syndromes psychiatriques chez les enfants. C'est des entités qui sont rares, on s'entend, mais lorsqu'on les découvre, on devient de plus en plus spécifique, puis on ne prend pas la psychose comme étant une grande entité qu'on va traiter de la même façon. Moi, j'ai trouvé ça là, très encourageant sur le plan de la psychiatrie, parce que la psychiatrie, et la santé mentale, de façon générale, c'est comme le mouton noir en médecine, parce que c'est tellement complexe qu'on a moins d'études, on a moins d'outils scientifiques. C'est pas comme en cardiologie ou comme en orthopédie, où est-ce qu'on a quand même beaucoup de choses concrètes à faire pour les patients, bien, du moins beaucoup plus qu'en santé mentale, même si ça s'améliore la santé mentale. Donc, dans cet article-là, on parle du trouble obsessionnel compulsif, on parle de multiples troubles anxieux, on parle de schizophrénie, où est-ce que l'aspect métabolique et immunitaire pourrait jouer un rôle assez important. Également, il y a une étude en cours à Oxford en ce moment, puisque Dr. Dr. Lennox, c'est ça qu'ils disent dans cet article-là, qui chapeauterait ces études-là, il parle d'effets potentiellement très bénéfiques, mais il n'a pas encore publié ces données. Donc là, il faut voir comment ça va être accueilli par la communauté scientifique, que la diète cétogène, et ici, on ne donne pas de conseils aux gens, là, à Joey et Karim, à dire la diète cétogène peut améliorer votre état de santé mentale. On dit pas comme dans tout, hein?
Un peu comme avec Simon Rochelot, ceci n'est pas un conseil juridique, mais avec Yannick
Harris. Absolument pas.
Ceci n'est pas un conseil médical.
Absolument pas. On cite les travaux d'une étude d'Oxford qui est en cours dans un article de The Economist. Et ce que cette étude-là dit, c'est que leurs résultats préliminaires par rapport à la diète cétogène pourraient améliorer de façon significative certaines pathologies mentales, dont des troubles anxieux et des troubles de la sphère psychotique, en raison du fait qu'ils ont découvert que, puis ça pas juste dans cette étude-là, mais dans d'autres également, que dans certaines entités psychiatriques, dont le trouble obsessionnel compulsif, les troubles anxieux et certains troubles psychotiques, il y aurait des anticorps, on retrouverait dans le sang des patients des anticorps qui vont contre les récepteurs NMDA, qui sont des récepteurs associés beaucoup à la mémoire et au comportement dans le cerveau. Donc, et la diète cétogène, selon les dires de ces chercheurs, pourrait avoir un effet positif en diminuant l'inflammation et en augmentant la quantité de cétone au cerveau pour diminuer l'impact des l'impact auto-immunitaire, l'impact immunitaire au sein des récepteurs NMDA du cerveau, faire en sorte que ces récepteurs-là seraient moins saturés et diminuer par le fait même certains symptômes de maladie mentale. Donc, tout ça est à l'étude. On ne dit pas que nécessairement une diète cétogène est indiquée en santé mentale. On n'est pas du tout là dans la science, mais du moins à l'Université Stanford, c'est à l'étude. Selon les chercheurs, leurs études seraient probantes, leurs résultats préliminaires seraient probants. Maintenant, à suivre, voir quel va être le dénouement de tout ça. Moi, j'ai bien hâte de voir. Parce que la diète cétogène, peut y avoir des avantages, des inconvénients, pour s'entendre. Sur le plan médical, parfois, il peut être indiqué, parfois, il n'est pas indiqué. Les meilleurs pour donner des conseils par rapport à ça, ce sont les nutritionnistes. Sur le plan de la santé mentale, c'est tout à fait nouveau. Donc, ça va être intéressant de voir les dénouements de tout ça. Puis, écoute, ben moi, ça fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui, Joey. Ça a été un peu long, je le sais, mais c'est un sujet qui est... qui est assez complexe, disons, puis je voulais qu'on prenne le temps. Et manifestement, on aurait pu en parler pendant des heures encore, parce que là, on n'a même pas parlé des Britanniques dans tout ça, qui ont quand même joué un certain rôle, mais on a fait notre possible.
Ben ouais, puis c'est le principe du podcast, les gens aiment beaucoup les trucs plus en longueur, puis c'est ça, sinon on serait plus à la TV, puis on ferait des segments de 4 minutes et demie pour parler de sujets complexes de manière ultra simplifiée. Fait que je pense qu'on est dans le bon format malgré tout. Je pense que c'est ça que les gens aiment aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en vitesse 1.5, fait que pas qu'ils nous aiment pas, c'est que souvent, ils ont beaucoup moins de temps que nous autres pour écouter du contenu. Fait que des fois, ils passent plus vite pour qu'ils puissent le temps de l'écouter dans une semaine.
Oh, mais moi, je fais ça régulièrement. Je fais ça régulièrement sur la route. C'est-à-dire, je mets ça vitesse 1.5 sur la route, puis je fais régulièrement ça. Bon. Parce que sinon, j'ai pas le temps de m'asseoir chez nous puis d'écouter le full contenu. Là.
Moi, je
le fais régulièrement. J'ai une demi-heure pour aller travailler, une demi-heure pour revenir. Puis le contenu qui m'intéresse, je le mets vitesse 1.3, 1.5, puis je l'écoute
aussi. C'est ça, le truc, mais en tout cas, moi, c'est ça que je fais aussi, c'est que c'est vraiment... À part quand ça fait partie vraiment de ma job, il faut que je l'écoute right now puis je fais juste ça. Mais le reste du temps, c'est que j'essaie de faire d'autres choses en même temps. Tu sais, soit, mettons, je popote ou je fais du ménage ou c'est je game ou je fais d'autres choses. Puis ça roule en background, des affaires que j'écoute. Fait que c'est rare que j'écoute pour écouter. Fait que c'est souvent ça le truc. Écoute, merci beaucoup, Carré. Vraiment super intéressant encore cette semaine. On a un autre sujet. Regarde, on vous le spoilera pas, mais donc on a un pas pire dossier sur un sujet assez intéressant, voire même semi-futuriste, on peut dire, mais qui est quand même plus proche qu'on pense, que Karim est en train de préparer pour nous. Fait que, écoutez, on vous dit pas que ça va être la semaine prochaine. On lui laisse le temps de se préparer, mais dites-vous, d'ici les prochaines semaines, on va en parler absolument. Fait que, Karim, écoute, bonne semaine à toi, puis on se revoit la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
Merci. Bye bye.